Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive.
Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidé par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Catherine Guéguen qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation. Catherine est pédiatre. Après le succès de Pour une enfance heureuse chez Robert Laffont, elle est devenue une référence dans le monde de l'éducation et de la petite enfance. Spécialisée dans le soutien à la parentalité, formée en autonomie et en communication non violente, elle donne des conférences et anime des groupes de travail pour les médecins, psychologues, éducateurs et sages-femmes sur l'accompagnement des parents. Je vous souhaite une belle écoute.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie Monsieur Julien Perron de m'avoir invitée. Et ici, j'ai un public qui est complètement motivé et engagé. Je pense que vous êtes tous pour ce changement éducatif. Et je voulais aussi vous dire, pour donner de l'espoir à tous, j'ai beaucoup, beaucoup de chance de faire le tour de la France depuis plusieurs années. Et je peux vous dire que partout, partout, il y a des initiatives pour que l'éducation change en France. Et moi, je suis une grande militante pour l'éducation nationale, parce que je voudrais que tous les enfants, sans question d'argent, puissent bénéficier de ça. Je pense que l'éducation nationale, tous les enseignants... Je rencontre des enseignants partout en France de l'éducation nationale qui changent leur classe. Donc je pense que c'est possible et qu'il ne faut pas désespérer. Le changement, il va venir d'abord d'en bas. Et plus il y aura d'enseignants dans l'éducation nationale qui changent leur façon d'être avec les enfants, eh bien, la tête va être obligée de changer. Je connais quelques personnes à la tête de l'éducation nationale qui ont envie que ça change. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages. Mais vous, qui êtes la base, vous pouvez être les porteurs de ce changement. Donc, je compte sur vous, évidemment. Alors, là, je vais vous parler des neurosciences affectives et sociales. Vous le savez tous, hein, on est tous là parce qu'on sait que l'éducation, c'est la chose essentielle qui peut vraiment transformer le monde. Et pourquoi ? Ben parce que l'enfant a un cerveau totalement immature et malléable et que tout ce qu'il vit s'imprègne totalement dans son cerveau. Donc s'il a des adultes autour de lui ben, qui sont, comme on va le voir, hein, eh bien, positifs, eh bien, son cerveau va se développer le mieux qu'il puisse se développer, c'est-à-dire aussi bien son cerveau intellectuel qu'affectif. Donc l'éducation est fondamentale, fondamentale pour changer le monde. Ensuite, je vous ai mis la jeune Malala, qui a eu le prix Nobel de la paix toute jeune, hein, cette Pakistanaise. Elle a dit quelque chose de très important, qu'avec des armes, on peut tuer les terroristes, bien entendu, mais avec l'éducation, on peut changer l'idéologie du terrorisme. Et c'est là notre boulot. Alors, qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales ? Elles sont à distinguer des neurosciences cognitives. En France, on connaît bien les neurosciences cognitives. Elles sont anciennes, les neurosciences cognitives. Elles datent des années 1970. Vous vous rendez compte comme c'est vieux, les neurosciences cognitives ? Eh bien, les neurosciences cognitives, c'est quoi ? C'est les mécanismes cérébraux de tout ce qui est intellectuel, comment on apprend à lire, à écrire, à compter. Les neurosciences affectives et sociales, elles sont très récentes. Elles datent du XXIe siècle. Et elles disent quoi ? Elles étudient quoi ? Les mécanismes cérébraux des émotions, sentiments et relations. Et je peux vous assurer qu'au XXe siècle, on ne savait absolument pas que le cerveau était dévolu en grande partie aux relations et aux émotions. C'est pour ça que notre école et notre éducation est basée sur ce qu'on savait du cerveau. On savait que le cerveau était dévolu en fonction intellectuelle, motrice et sensorielle. Et nos écoles étaient basées sur ces trois compétences-là. On ne savait pas que les émotions et les relations étaient fondamentales pour les êtres humains. On le sait tous intuitivement, bien entendu, mais on ne le savait pas explicitement. Donc, comme on va parler de relations, je vais vous demander un petit travail par deux, très rapide, une minute et demie. Tiens, j'ai oublié mon téléphone qui va me donner la minute. Et vous allez vous dire à deux, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, idéalement, dans vos relations ? Donc, je vous donne le top départ, hein. La consigne, qu'est-ce que vous souhaitez dans vos relations ? Pourquoi ? C'est ce que les chercheurs se sont posés comme question pour étudier ce qui se passait au niveau du cerveau des enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait comme relation ? Une minute. Merci. D'habitude, j'ai mon téléphone. Dans 30 secondes de plus. C'est à la fois court et long, une minute et demie. Hein ? Alors, je vous ai donné très peu de temps. Je vais proposer aux personnes qui le souhaitent de lever la main et de dire en public, voilà, il y a des personnes qui veulent dire. Qu'est-ce qu'on souhaite idéalement dans une relation ? Bonjour. Se sentir considéré par l'autre. Ok, merci.
Bonjour. La sincérité et l'absence de jugement.
La sincérité et l'absence de jugement.
Le respect.
Le respect.
La confiance. Bonjour. Et l'amour.
La confiance et l'amour. Je vais prendre encore une ou deux personnes.
Bonjour. Bonjour. Le plaisir et l'harmonie.
Le plaisir et l'harmonie.
L'écoute et la communication.
l'écoute et la communication. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Vous voyez qu'en une minute et demie, hein, parce que ça a été une minute et demie, vous avez dit, hein, tout le monde sait intuitivement ce qu'il faudrait dans ces relations. On le sait tous. Par contre, est-ce qu'on le fait avec les enfants ? Eh bien, pas du tout. Et c'est ça qui peut paraître très étonnant. Les dernières statistiques de l'UNICEF nous disent que la très grande majorité des enfants dans le monde reçoivent des humiliations verbales et physiques tous les jours, aussi bien dans les familles que dans les institutions. Donc vous voyez, nous savons tous ce qu'il faudrait faire avec les enfants. Eh bien, les chercheurs ont travaillé sur cette question et ils ont vu que, et ça c'est une nouvelle extraordinaire du XXIe siècle, hein, maintenant c'est prouvé scientifiquement que c'est de ça dont ont besoin le cerveau des enfants pour s'épanouir. Et c'est pour ça que c'est une vraie révolution ce que nous disent toutes ces recherches du monde entier. Parce qu'ils nous disent depuis des millénaires, les enfants sont humiliés verbalement dans le monde entier. Et bien maintenant, on sait que c'est ça qui fait développer le cerveau de façon optimale. Il faut une relation empathique, on va voir ce que c'est que l'empathie, chaleureuse et soutenante. Donc ça paraît pas extrêmement difficile en fait, hein. Et l'empathie, c'est quoi ? C'est sentir les émotions d'autrui. Et quand on est un professionnel, et ici j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enseignants, très important, ne pas porter la détresse des enfants ou des parents sur soi. C'est-à-dire qu'on sent, mettons, un enfant en détresse, mais on ne porte pas la détresse sur soi. Sinon, on disjoncte, on fait un burn-out. Donc c'est très très important. Ensuite, comprendre les émotions de l'enfant. Pourquoi il est en détresse, cet enfant-là. Et ensuite, la sollicitude empathique qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Et donc vous voyez que l'empathie est basée sur les émotions. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que les neurosciences affectives et sociales s'intéressent aux relations et aux émotions. Les émotions, ça vous paraît tout à fait normal, à vous qui êtes là, qu'on en parle. Mais je peux vous assurer qu'au XXe siècle, on n'en parlait pas du tout. Les émotions, il fallait les taire. Il ne fallait pas les exprimer. Donc, c'est un pas énorme quand on arrive à travailler sur les émotions. Et à l'heure actuelle, beaucoup de professionnels de l'enfance, beaucoup d'enseignants, maintenant travaillent sur les émotions. Alors, être empathique, hein, là tout à l'heure, quelqu'un vous l'a dit, Pascal Haag vous l'a dit aussi, c'est pas du tout être laxiste. Hein. Ceux qui confondent l'éducation bienveillante et le laxisme, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'éducation bienveillante. Hein. L'adulte doit toujours être un vrai adulte, c'est-à-dire qu'il pose un cadre, il transmet des valeurs, il doit savoir dire non. Et ça, c'est très important. Mais, par contre, sans humilier l'enfant verbalement et physiquement. Chose qu'il a toujours faite depuis la nuit des temps, hein, je vous le dis. Moi, dans mes consultations de pédiatre à l'hôpital, les parents ne se gênaient pas pour me dire « Mon enfant est nul, il est incapable, j'en ferai rien de sa vie, il va terminer sur le trottoir. » Tout le temps, que des paroles dévalorisantes. Donc, c'est vraiment un appel à une révolution, ne plus jamais humilier verbalement un enfant. Ensuite, physiquement non plus. On a une loi depuis le 10 juillet, mais je peux vous assurer que les enfants sont encore humiliés physiquement de façon très, très, très importante. Surtout la première année de vie, et ensuite, dans la petite enfance, ils subissent énormément, énormément de maltraitance. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui meurent de maltraitance très, très fréquemment, en France encore, partout dans le monde, mais encore en France, parce que les parents ne supportent pas les pleurs de l'enfant, les colères des enfants, et ils disjonctent. Je n'en veux pas du tout aux parents, hein, de faire ça, hein, parce qu'ils croient qu'en humiliant l'enfant ou en les tapant, l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Ils le font généralement avec une bonne intention, parce que très souvent, on les a élevés comme ça. Donc vous voyez, qu'il y a encore un travail immense à faire pour leur faire comprendre qu'il y a un autre moyen pour que l'enfant s'épanouisse. Et maintenant, on a les études scientifiques qui nous disent que oui, l'empathie fait développer le cerveau, et oui, les humiliations verbales et physiques abîment le cerveau. Et les inspecteurs qui m'invitent pour l'éducation nationale me disent « on vous invite parce qu'il y a les preuves scientifiques maintenant ». Mais oui, mais oui. Mais je vais vous dire une chose aussi. Moi, au XXe siècle, quand les parents venaient me voir et me demandaient des conseils pour l'éducation, on ne savait rien scientifiquement. Donc je disais « moi, je pense ceci ou cela ». Mais je n'étais jamais sûre de rien. Au XXIe siècle, on a déjà des pistes extrêmement importantes qui nous disent que oui, maintenant il y a des preuves que ceci ou que cela. Donc c'est une vraie révolution dans la connaissance du développement de l'être humain, toutes ces recherches scientifiques qui sont dans le monde entier. Les émotions, ah oui, là aussi je vous dis que parler à l'enfant ou à l'adolescent, il faut toujours le faire avec des mots très simples. Les grands discours, les enfants ne les écoutent pas, et les adolescents non plus. Je me suis beaucoup occupée d'adolescents, et je peux vous assurer qu'ils me disent « mais mon prof, mes parents, ils me gonflent hein, en me faisant des discours de morale ». Pas de discours de morale. On dit juste des choses très simples. On dit pas, on n'insulte pas, on ne dit pas telle chose. On ne tape pas, on ne crache pas. Tout à l'heure, on parlait des crachats. Mais toujours après, je te fais confiance. Tu vas apprendre à ne plus faire ceci, à ne plus faire cela. Tu peux progresser. Il y a des études très intéressantes à l'heure actuelle qui disent que quand on dit à un enfant qu'il peut progresser toute sa vie, aussi bien intellectuellement qu'affectivement, eh bien, il progresse. Donc c'est très, très important. Et pour nous adultes, pareil. Notre cerveau est malléable. Il se modifie tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec tout ce qu'on vit jusqu'à la fin de notre vie. Donc nous pouvons progresser toute notre vie. Et il faut toujours dire aux enfants, vous pouvez progresser. Toujours, toujours leur faire confiance. Donc vous voyez que c'est à la fois très simple et très complexe. On dit non à certaines choses et on leur donne confiance. Les émotions. Pourquoi c'est si important? Parce que à chaque fois qu'on parle de nos émotions désagréables, par exemple, je suis en colère ou je suis triste, tout de suite, ça va calmer une partie de notre cerveau qu'on appelle l'amygdale cérébrale qui active les molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline. Donc, à chaque fois qu'on dit « je suis en colère » ou « je suis triste », tout de suite, ça nous fait du bien. Je peux vous assurer que nous, médecins, on a été élevés, moi qui suis âgée, en disant « il faut mettre un mur entre vous et le patient ». Je peux vous assurer que c'est inimaginable. Donc, on ne disait rien. Quand j'ai appris tout ça, il y a quelques années, eh bien, quand j'arrivais à l'hôpital, pour commencer ma journée, que j'avais eu un souci familial, je disais à mes patients, vous savez, aujourd'hui, je suis triste ou je suis inquiète, j'ai eu un souci familial. Je ne disais pas, évidemment, ce que j'avais eu comme souci, mais je le disais. Donc, tout de suite, moi, ça me calmait, ça m'apaisait, j'avais moins de cortisol, et mes patients me comprenaient, ils avaient de l'empathie pour moi. Donc, maintenant, je suis très heureuse de voir que dans beaucoup d'écoles, maintenant, le matin, l'enseignant ou le professionnel de la petite enfance met les enfants en rond, commence par eux, hein, l'adulte doit toujours être... L'adulte est un modèle, les enfants les imitent. Bon, en disant, ben, aujourd'hui, je suis triste, ou je suis heureuse, ou je suis sereine. Et puis après, chaque enfant dit ce qu'il ressent. Et celles et ceux qui ont cette expérience-là, là où ils sont, vous constatez que ça fait du bien à tout le monde. Et on peut le faire plusieurs fois par jour. Donc je vous incite énormément, énormément à pratiquer l'expression des émotions. L'identification des émotions, mais l'expression des émotions. Le premier à avoir décrit le circuit cérébral des émotions, vous voyez, c'est très, très récent. C'est Damasio, en 1995. Il avait dans son service des patients qui avaient eu des gros problèmes cérébraux et qui n'éprouvaient plus aucune émotion. À sa très, très grande surprise, il a vu qu'ils avaient un QI normal, voire supérieur à la normale. Pour lui, ça a été un très grand choc. Il s'est dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai été élevée avec des parents, des enseignants qui m'ont dit que l'intellect, c'était ce qu'il y avait de plus important. Eh bien, ces patients-là n'avaient plus de vie affective puisqu'ils ne ressentaient plus rien, ils n'aimaient plus. Donc, ils se faisaient éjecter du domicile familial. Ils n'avaient plus aucune motivation pour le travail, ils s'en fichaient complètement puisqu'ils n'éprouvaient plus rien. Ils se faisaient éjecter de leur travail. Ils pouvaient tuer ou voler puisqu'ils n'avaient plus aucune considération pour les uns ou pour les autres. Ils ne savaient plus, évidemment, faire de choix. Et très souvent, ils dormaient dans la rue parce que ça leur était complètement égal de dormir dans la rue. Et Spinoza avait déjà parlé du rôle des émotions, mais c'est vraiment Damasio, il voyait en 95, qui a dit que les émotions étaient fondamentales. Il ne nie pas l'intellect, mais il dit qu'il faut d'abord être connecté à ses émotions et ensuite comprendre pourquoi on a telle et telle émotion. Et donc, il nous dit que les émotions influencent notre vie affective, notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir et d'avoir un sens éthique et moral. Et nous qui nous occupons des enfants, qui voulons que les enfants aient une très bonne connaissance d'eux-mêmes, une bonne conscience d'eux-mêmes, il faut absolument qu'ils soient connectés à leurs émotions et qu'ils comprennent pourquoi ils ont telle ou telle émotion. Donc c'est à partir de ces recherches-là, vous voyez, 95, qu'on a commencé à vraiment parler des émotions et à comprendre le rôle des émotions. Donc vous voyez, c'est très très récent, 95. Et son premier livre, L'erreur de Descartes, veut bien dire quelque chose, hein, c'est un tacle pour nous Français. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude vis-à-vis de tous ces chercheurs dont je vais vous parler, qui permettent de faire avancer l'éducation dans le monde. Vous avez Martin Teicher à Harvard qui nous dit que les humiliations verbales et physiques abîment le cerveau, je vous en reparlerai. Bruce McEwen, qui est le grand spécialiste au monde du stress sur le cerveau et cerveau des enfants. Joanne Luby qui nous dit que dès qu'on encourage un enfant, dès qu'on le soutient dans ce qu'il fait, dans ses efforts, eh bien ça fait progresser le cerveau. Michael Minet nous dit que le maternage, le stress, va modifier l'expression de certains gènes. Rianne Koch, elle a fait une très grande étude, elle mériterait le prix Nobel, en nous disant que l'empathie modifie totalement le cerveau dans le bon sens. Anne-Laura van Armelen, elle mériterait aussi le prix Nobel. Vous voyez, c'est deux jeunes hollandaises qui nous dit que dès qu'on humilie les enfants, qu'on leur donne un sentiment d'humiliation et de honte, ça abîme la partie la plus précieuse du cerveau de l'être humain et de l'enfant. Sarah Whittle, c'est la grande spécialiste du cerveau des adolescents. Et Malin Björnstotter nous dit que le toucher respectueux, doux, va faire maturer le cerveau. Alan Shore, lui, c'est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. Il nous dit que à chaque fois que l'enfant a la chance d'avoir un adulte autour de lui empathique, chaleureux et soutenant, ça fait maturer cette toute petite partie du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Orbitofrontal, c'est-à-dire que c'est au niveau de nos orbites et au niveau de notre front. C'est la partie la plus précieuse de l'être humain. Elle nous sert à quoi ? À être empathique. Sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc vous voyez comme l'empathie est fondamentale. Et je vous le redis, l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et d'abord, il faut un travail d'auto-empathie. Sans auto-empathie, on ne peut pas être empathique avec les autres. Donc, ce cortex orbitofrontal nous permet d'être empathique, d'avoir un sens éthique et moral. Vous vous rendez compte comme c'est important? De faire des choix et de savoir faire face à nos émotions. Donc, vous voyez, ces quatre capacités, elles sont fondamentales pour être pleinement humain. Eh bien, Alan Shore nous dit que quand l'enfant a la chance d'avoir des adultes empathiques, chaleureux et soutenants, ce cortex orbitofrontal va se développer de façon optimale et on va voir des enfants et des adultes pleinement humains. Donc vous voyez comme c'est important. C'est à la fois, je vous le redis, facile et difficile. C'est les deux. Le cerveau est la chose la plus complexe de tout l'univers. Là, je vous montre la complexité. avec les neurones qui sont connectés, des molécules cérébrales qui passent en permanence d'un neurone à l'autre, des centaines de molécules, et chaque relation va impacter tout ça, va impacter les neurones, la myéline, qui est un manchon graisseux au niveau de l'axe du neurone, va impacter les molécules. L'essentiel, à l'heure actuelle, de ce que nous disent les chercheurs, ce sont les circuits neuronaux, c'est ça l'essentiel. Et les relations vont impacter les circuits neuronaux. Le plus important, c'est celui qui va du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus précieuse derrière notre front, qui comprend ce cortex orbitofrontal, et qui va aux autres parties du cerveau. Si on veut comprendre le développement de l'enfant, on est obligé de revenir à la catégorisation ancienne du cerveau, hein, qui n'est plus utilisée maintenant. Maintenant, c'est les circuits neuronaux dont les chercheurs parlent. Mais pour comprendre l'enfant, il faut revenir à cette catégorisation. Donc, le cerveau archaïque ou reptilien, on l'a en commun avec les reptiles et les poissons, il est là pour notre survie. Dès qu'on est en grande insécurité, on va attaquer, fuir ou être sidéré. Et ce cerveau archaïque est dominant chez l'enfant petit. Et ça, je peux vous dire que ça m'a fait totalement changer mon regard sur l'enfant. On ne le savait pas au XXe siècle. C'est très récent qu'on sache ça. Le cerveau émotionnel, on l'a en commun avec tous les mammifères. Nous sommes des mammifères, hein. Et donc tous les mammifères ressentent des émotions. Et le cerveau émotionnel est dominant chez l'enfant petit. Le cerveau supérieur, on l'a en commun avec les grands singes. La différence entre les grands singes, c'est notre cortex préfrontal. Les grands singes ont un cortex préfrontal, mais nous, on l'a beaucoup plus développé que les grands singes. Le cortex orbitofrontal, je vous ai dit, il sert en partie à réguler nos émotions. L'enfant petit, lui, a un cerveau très, très immature. Il faut 25 ans pour que le cerveau de l'enfant soit mature, soit adulte. Donc vous imaginez que quand on s'occupe d'enfants petits, moi ça m'a donné beaucoup, beaucoup de compassion pour un enfant petit. Il est extraordinairement immature, son cerveau est très malléable et très vulnérable. Le cortex préfrontal, c'est ce qui nous permet toutes les grandes facultés supérieures de l'être humain. Et à chaque fois que les adultes sont empathiques, chaleureux et soutenants, c'est toujours ces trois mots-là que disent les chercheurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes ces recherches internationales. Eh bien, ça fait maturer ça. Donc vous voyez que c'est ça qu'on a envie que nos enfants développent. C'est-à-dire qu'ils sachent réfléchir, raisonner, être créatifs, imaginer, résoudre les problèmes, planifier, avoir une conscience de soi et l'empathie. Eh bien, à chaque fois qu'on est empathique, chaleureux et soutenant, on permet le développement de ça. Par contre, ce qui est très souvent très difficile pour les adultes, c'est qu'il faut énormément de patience. Et qu'il faut des tonnes et des tonnes de patience avec les enfants. Puisqu'il faut 25 ans pour que le cerveau soit adulte. Le cortex orbitofrontal, je vous ai dit à quoi il servait. C'est donc la partie la plus précieuse de l'être humain. Devant des très fortes émotions, normalement, notre cortex orbitofrontal nous permet de ne pas agresser l'autre, ni verbalement, ni physiquement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont un cortex orbitofrontal qui n'est pas encore très développé. Ben oui, c'est ça que ça nous dit. Ceux qui n'ont pas de sens éthique et moral, c'est que dans leur enfance, ils n'ont pas eu des adultes empathiques, chaleureux et soutenants. On les a humiliés verbalement et physiquement. Ça veut dire ça. S'enfuir ou sans être en état de sidération. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amygdale cérébrale, que à chaque fois qu'on est stressé, qu'on a des émotions désagréables, notre amygdale cérébrale sécrète du cortisol. Vous voyez, l'amygdale, elle est en rouge là. Malheureusement, elle est mature dès la naissance, donc nos enfants peuvent avoir très très peur dès la naissance. Et en dessous de 5-6 ans, les structures qui permettent de faire face aux peurs, donc c'est notre cortex orbitofrontal qui permet de faire face à nos émotions, n'est pas du tout mature. Donc, jamais, jamais, jamais faire peur à un enfant en dessous de 5-6 ans. Parce que ce sont des réelles paniques qu'il a. Il ne peut pas faire face à ses émotions de peur. Ensuite, à chaque fois qu'on fait peur à un enfant, l'amygdale va stocker ses souvenirs de peur, mais ses souvenirs sont inconscients. Mais il continue à être actif chez la personne. Ensuite, c'est très très important ça, pourquoi ? Tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, a une traduction biologique. L'empathie, je pense que vous le savez, la molécule, c'est l'ocytocine. Et le cortisol, la molécule de stress, va bloquer le développement de l'ocytocine. Donc ça, ça m'a permis de faire beaucoup d'hypothèses, de comprendre beaucoup de choses. Parce que les chercheurs nous disent quoi ? Maintenant, on sait que l'être humain, à la naissance, est né avec une empathie. Il a de l'ocytocine. Nous sommes tous faits pour être empathiques, pour être altruistes. Alors pourquoi on ne l'est pas tous ensuite ? Eh bien, comme la très grande majorité des enfants reçoivent des humiliations dès la première année de vie, le cortisol va bloquer l'évolution, le développement de l'ocytocine. Donc ce qu'il faudrait, c'est développer cette ocytocine pour que nous soyons tous empathiques. Tous les enseignants, tous les parents ont envie d'être empathiques. Mais le tragique, c'est que souvent, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils reçoivent du stress toute la journée. Comment on développe notre ocytocine ? Eh bien, en recevant de l'ocytocine. C'est ça l'extraordinaire de la vie humaine et le tragique de la vie humaine. C'est que nous sommes tous interdépendants. Moi, ça me plaît beaucoup de savoir que nous sommes tous interdépendants. Mais nous dépendons tout à fait des autres. Dès qu'on rencontre quelqu'un d'empathique, chaleureux et soutenant, nous recevons de l'ocytocine. Et la personne empathique sécrète elle-même de l'ocytocine. Et donc, ça fait du bien à tout le monde. Donc, vous voyez, le boulot qu'il y a à faire, c'est soi-même d'abord recevoir de l'ocytocine pour pouvoir être empathique et être empathique avec les autres. C'est clair pour vous ? Oui ? Jusqu'à 6 ans, hein, je vous ai dit, le cerveau de l'enfant est très, très immature. Son cortex, là, orbitofrontal, et les connexions qui vont à tout le cerveau ne sont pas du tout matures. Et donc, l'enfant petit ne peut pas contrôler ses émotions. Et je vous ai mis, et ses impulsions, c'est pas qu'il ne sait pas ou il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et ça, je vous assure que ça change totalement la vision qu'on a de l'enfant. Donc l'enfant ne fait pas de caprices, il n'est pas méchant, ce n'est pas un tyran, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Donc moi j'ai dit beaucoup de bêtises au XXe siècle aux parents parce que je ne savais pas. Et ça, il ne faut pas vous culpabiliser de ça. Ces recherches sont très récentes. Et moi je trouve extraordinaire de pouvoir progresser, de se dire ce qu'on a dit avant, ça n'allait pas. Et maintenant on sait des choses et on va certainement encore apprendre beaucoup de choses nouvelles. Et tant mieux. C'est une chance, hein. Il faut le prendre vraiment comme une chance. L'enfant petit, il a des grandes tempêtes émotionnelles. Hein. Et donc, nous avons notre cortex orbitofrontal et préfrontal qui nous permet de prendre du recul face à nos émotions fortes. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est peut-être pas si grave que ça, je vais trouver une solution, je vais aller parler à la personne si on est en conflit. Donc on peut prendre du recul vis-à-vis de nos émotions. L'enfant petit ne peut pas. Donc il reçoit ses émotions de plein fouet. Donc lui, quand il pleure, ce sont des immenses tristesses. Quand il est en colère, ce sont des immenses colères. Quand il a peur, je vous l'ai dit, ce sont des immenses paniques. Et on lui dit, c'est rien. Arrête ton cinéma, arrête tes comédies. Donc vous voyez, ça c'est très 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 important de savoir ça. Donc, je vous ai mis, ce n'est pas un trouble pathologique du développement ni des caprices. Les enfants petits, ils ont une phase, à partir de très souvent 18 mois, parfois même avant, où dès qu'ils sont en grande insécurité affective, ils vont taper, griffer et mordre. Jusqu'à présent, on les punissait. On les tapait, on leur disait « tu es méchant ». Et c'est pas bien ce que tu fais. Maintenant, On sait que c'est parce que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Besoin d'affection, besoin d'attention, besoin de jouer, besoin de calme, il y a plein de besoins fondamentaux. Donc c'est très très important de savoir que c'est une phase normale dans le développement de l'enfant et qu'il va manifester ça à chaque fois qu'il est en grande insécurité. Et ce n'est pas parce qu'il est méchant. Dès que l'enfant n'a pas assez d'attention, d'affection, eh bien, son cerveau disjoncte. J'ai été émerveillée de voir que tous les chercheurs du monde entier disent la même chose, que devant des tempêtes émotionnelles de l'enfant, il faut trois choses. Être empathique, sentir ses émotions, comprendre pourquoi il a telles émotions. Ensuite, il faut l'apaiser. C'est totalement contre-intuitif, hein. Vous voyez, un enfant qui vient de se rouler par terre, qui crie, qui jette ses jouets, qui mord, qui tape, eh bien, la plupart du temps, les adultes punissent. Eh bien là, c'est contre-intuitif, on va au contraire l'apaiser. Donc, pour être capable de l'apaiser, il faut déjà être très calme. Donc, il faut déjà avoir fait un travail sur soi, de comprendre l'enfant, de se faire aider si on n'arrive pas à être calme. Et ça, je pense que vous le savez, si on n'arrive pas à être calme devant les colères ou les pleurs des enfants petits, hein, parce que c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'adultes, eh bien, il faut d'abord se donner beaucoup d'auto-empathie, avoir beaucoup de compassion pour soi. Et puis, si on n'y arrive pas, il faut se faire aider dans des groupes de parole. Voilà. Parce qu'un enfant qui a une grande tempête émotionnelle, il a besoin d'un adulte compréhensif, qui le calme, qui l'apaise, et ensuite qui va l'aider à exprimer ses émotions. Ce n'est pas juste au moment de la tempête émotionnelle que l'enfant va pouvoir parler de ses émotions, mais généralement, un peu après. Eh bien, à chaque fois qu'on fait ça, eh bien, on va favoriser le développement du cerveau. Donc, c'est extraordinaire. Maintenant, on sait, on a un pouvoir incroyable sur le développement de l'enfant. À chaque fois qu'on fait ça, on aide le cerveau à se développer. Au contraire, si on laisse l'enfant en panique, en pleurs, en colère, eh bien, il va y avoir du cortisol qui est très, très mauvais pour le développement du cerveau de l'enfant. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Alan Shore nous a dit que ce cortex orbitofrontal, je vous redis les quatre fonctions, il nous sert à être empathique, avoir un sens éthique et moral, faire des choix et faire face à ses émotions. Il faut, vous voyez, de la sécurité affective, de l'écoute, de la bienveillance. Si on l'humilie, eh bien, ce cortex orbitofrontal se développe mal. L'empathie, je vous en ai parlé tout à l'heure de sa définition. Il y a des centaines de définitions de l'empathie. Moi, je prends celle de Jean de Setti qui travaille à Chicago parce qu'il y a la sollicitude empathique. Parce que à quoi servirait de sentir l'émotion de l'enfant, sa détresse, comprendre pourquoi il est en détresse si on n'a pas envie de lui apporter du bien-être. Il y a énormément d'études à l'heure actuelle qui sont très récentes, qui nous montrent l'effet de l'empathie sur le développement du cerveau. Là, je vous en montre une qui vient de Singapour, qui nous dit, voyez, que déjà chez un bébé de 6 mois, quand la mère est empathique, ça va développer l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette structure cérébrale qui est en vert, qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Pour les enseignants, c'est très intéressant. Hein. Eh bien, à chaque fois que la mère est empathique, ça va développer l'hippocampe et toutes les connexions impliquées dans le fonctionnement socio-émotionnel. Donc maintenant, on sait vraiment que l'empathie développe le cerveau aussi bien intellectuel qu'affectif. Le cerveau intellectuel, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Le cerveau affectif, c'est ce qui nous permet d'exprimer, de comprendre nos émotions et d'avoir des relations satisfaisantes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Ryan Koch, qui mériterait le prix Nobel parce que c'est une énorme étude qu'elle a faite. 191 familles, elle a étudié le père et la mère. Eh bien, de 6 semaines à 8 ans, eh bien, quand les deux parents sont empathiques, à 8 ans, toute la substance grise du cerveau se développe et il y a un épaississement du cortex frontal qui nous permet de ne pas être des grands singes. Donc vous voyez comme c'est important et comme on a les preuves scientifiques à l'heure actuelle de ce qu'il faudrait. Donc, vous le savez, hein, que être enseignant, ça peut être une source de grande joie, c'est comme être parent, mais ça peut être très difficile. Ça demande un travail d'empathie, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est très important, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des parents et des enfants. Et s'il n'y a pas une cohésion d'équipe basée sur l'empathie, ça ne peut pas marcher. Je vous ai dit qu'on ne peut pas être empathique si on ne reçoit pas de l'empathie, si on n'en donne pas aux autres. C'est l'interdépendance des humains entre eux. Donc, quand on travaille dans des institutions, très important d'avoir une cohésion d'équipe basée sur l'empathie. Et l'empathie, c'est l'écoute de nos émotions. C'est la compréhension de nos émotions. Acceptation inconditionnelle de l'enfant ou de l'adolescent comme une personne. Pascal l'a dit là tout à l'heure, bien entendu, mais tous les comportements ne sont pas acceptables et les règles explicites, hein, Pascal nous l'a bien dit, sont indispensables et ça va contribuer à la sécurisation de la classe et des enfants. L'accueil émotionnel, l'accueil des besoins derrière les émotions, hein, le non-jugement, on ne se moque pas, hein, Pascal vous a dit que tous les matins on disait qu'on ne se moquait pas, hein. Vous voyez que tout le monde travaille dans le même sens. À l'heure actuelle, tous les chercheurs disent la même chose dans le monde entier. On sait ce qu'il faudrait faire. Donc il n'y a, à mon avis, pas besoin de faire d'énormes recherches. Il faut donner de l'argent à la formation des professionnels. Donner de l'argent à la formation des professionnels de la petite enfance et des enseignants. Oui. Vous m'applaudissez, mais je n'ai pas le pouvoir de... C'est pas moi qui décide de la formation. J'aimerais bien, mais je n'ai pas de baguette magique. Hein. Donc, savoir dire non aux moqueries, aux insultes, aux étiquettes. Jamais d'étiquettes sur personne. Même entre collègues, entre enfants, dire non, on ne juge personne. C'est, la vie est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile si on ne met plus d'étiquettes. Et si possible, pas d'exclusion. Ça, c'est très, très compliqué. Hein. Au lycée, hein. Je fais des interventions pour des inspecteurs, des directeurs d'établissement. Ils me disent « Mais comment voulez-vous qu'on fasse si on n'exclut pas ?» Évidemment qu'il y a tout un travail à faire. Pour... Quand on accueille comme ça, ça favorise l'expression et ça crée de la confiance entre les enseignants, entre les élèves aussi. Le maternage. Le maternage, c'est quoi ? C'est prendre soin, rassurer, sécuriser, consoler. On a tous besoin de ça à certains moments de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux bébés, ce n'est pas réservé qu'aux femmes d'être capables de materner. Mais messieurs, vous qui êtes là, vous êtes tout à fait aussi capables que les femmes de materner. Eh bien, c'est très, très important. Pourquoi ? Ça fait sécréter l'ocytocine. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, ça fait sécréter l'ocytocine. Ça augmente le BDNF. Le BDNF, c'est un facteur de croissance des neurones. Donc, vous voyez, ça favorise le développement du cerveau. Ça va modifier l'expression d'un gène qui renforce l'aptitude à faire face au stress et ça va développer l'hippocampe. L'hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Et donc, ça a des effets très positifs sur la maturation du cerveau. Donc, on ne perd jamais de temps à prendre soin, réconforter, consoler, câliner un enfant, même dans une classe, individuellement. Ce n'est jamais une perte de temps. Pourquoi ? L'adulte est un modèle. Et quand les enfants voient un enseignant, un adulte, s'occuper d'un enfant en détresse, il apprend comment on fait. Et donc lui, je connais des endroits où les enfants savent s'occuper des autres enfants quand ils sont en détresse. Alors que si on punit et qu'on humilie, les enfants apprennent que oui, il faut punir et humilier. Et ils vont faire la même chose dans la cour. Donc vous voyez que c'est notre attitude à nous qui est fondamentale. Et les enfants vont nous imiter. Merci à Joanne Luby qui nous dit que quand on soutient, on encourage son enfant. Là oui, je vois que c'est difficile pour toi, mais tu vas y arriver. Eh bien, ça va augmenter le volume de l'hippocampe, vous voyez, par deux. Une attitude très soutenante multiplie par deux le volume de l'hippocampe, ce qui est gigantesque. Et que cet effet persiste jusqu'au début de l'adolescence. Donc vous voyez, soutenir, encourager, jamais, jamais dévaloriser un enfant. La sécrétion d'ocytocine, je vous ai mis la dopamine. La dopamine, c'est une molécule qui nous permet d'avoir du plaisir à vivre, d'être créatif, d'être motivé. Beaucoup, beaucoup de parents que j'ai rencontrés, d'enseignants nous disent « les enfants ne sont pas motivés, ils ne veulent plus aller à l'école ». Mais s'ils ne reçoivent pas d'ocytocine, ils ne peuvent pas être motivés, puisque l'ocytocine permet la sécrétion de dopamine. Donc l'ocytocine est primordiale, l'ocytocine, c'est être empathique, chaleureux, aimant. Eh bien, elle est bloquée par la compétition, la comparaison, la comparaison entre frères et sœurs, la comparaison entre élèves, le stress. Elle est stimulée par la collaboration, la coopération et le plaisir. Comment on applique toutes ces découvertes en neurosciences affectives et sociales ? Par le développement de l'empathie et des compétences socio-émotionnelles. Moi, je ne parle pas de compétences psychosociales, je parle des compétences socio-émotionnelles. Pourquoi ? Parce que c'est très explicite. C'est sur cette définition que travaillent tous les chercheurs du monde entier. Ils ne travaillent pas sur les compétences psychosociales. Pourquoi ? Pourquoi moi, j'utilise ça ? Parce que j'ai collecté toutes les recherches qui viennent du monde. Il y en a beaucoup, je ne les ai pas collectées toutes, mais j'en ai collecté des centaines. Parce que c'est très facile à expliquer, les compétences sociales et émotionnelles, vous allez voir, je vais vous donner la définition, alors que psycho, personne ne sait ce que ça veut dire psycho. Donc, pour être compris, il faut parler le plus clairement possible. Donc moi, je milite pour qu'on dise les compétences sociales et émotionnelles. Compétences émotionnelles, c'est la connaissance des émotions. Et on en a des dizaines et des dizaines, on n'en a pas que 5 ou 6, comme on dit très souvent. Notre vie affective est très subtile, très riche. Il faut savoir les exprimer sans aucune culpabilité. Ce n'est ni bien ni mal d'avoir des émotions. Elles nous renseignent juste sur ce qui se passe en nous et si notre vie correspond à ce que nous souhaiterions ou pas. Ensuite, il faut savoir les réguler, bien entendu, pour pas qu'elles nous envahissent trop et qu'elles envahissent les autres. Une fois qu'on a fait ce travail sur soi, et je le redis, c'est d'abord un travail sur soi, eh bien, on peut avoir des relations satisfaisantes. Et les relations satisfaisantes, c'est savoir écouter l'autre, savoir comprendre l'autre, coopérer, résoudre les conflits, avoir une pensée critique. Eh bien, vous voyez qu'il y a une étude de 2017 qui nous dit que quand les enfants ont eu la chance d'avoir développé ça grâce à leurs enseignants, eh bien, ils réussissent scolairement très bien. Eh bien, pourquoi ? Tout ça, c'est un travail d'empathie. Et maintenant, vous savez que c'est l'empathie qui fait développer le cerveau. Beaucoup, beaucoup d'études que j'ai collectées dans mon dernier livre qui est en poche, « Heureux d'apprendre à l'école », nous disent que quand les enseignants ont une formation pour développer leurs compétences socio-émotionnelles, ils n'ont plus de burn-out. Le burn-out, la plupart du temps, est dû au fait qu'ils n'ont pas de formation vis-à-vis de leurs relations avec les parents et les enfants. Ils ont une relation proche avec leurs élèves, bien entendu, et ils ont un sentiment de compétence et d'accomplissement. Donc vous voyez que travailler ces compétences socio-émotionnelles nous fait progresser nous-mêmes, à tout point de vue. Les Américains ont énormément d'argent pour faire des études, et là ils ont fait une étude sur 270 000 élèves, vous voyez, de l'école maternelle à la terminale, avec deux groupes. Un groupe dont les enfants ont eu une formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, un groupe qui ne l'a pas eu. Eh bien, le groupe qui ne l'a pas eu, ben, il ne s'est rien passé. Le groupe qui a eu cette formation, la qualité des relations s'améliore, les problèmes de comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent. Et merci à Karen Biermann qui travaille dans des quartiers très, très pauvres et elle montre la même chose. Ces enfants progressent sur tous les plans. Et vous voyez que ces bénéfices sont stables à l'école élémentaire. Donc vous voyez, maintenant, on sait ce qu'il faudrait faire. C'est développer les compétences socio-émotionnelles et que les professionnels de l'enfance aient une formation pour développer ces compétences-là. Il n'y a plus qu'un quart d'heure. Là, je vous ai parlé de que l'enseignant s'occupe individuellement. Mais il y a des études qui le montrent. Ce n'est pas moi qui dis tout ça. Donc je vais vite. Là aussi, c'est dans des quartiers très pauvres, donc il y a plein d'études sur des quartiers très pauvres. La communication non-violente, je vous en parle pourquoi ? Parce que moi, je me suis formée il y a très très longtemps, et que la communication non-violente vise vraiment à développer l'empathie et comment avoir des relations satisfaisantes. Et les formateurs certifiés en communication non violente ont des années de formation. Et la qualité des formateurs est très, très importante. Là, pour vous dire que il y a un prix Nobel d'économie qui a travaillé là-dessus. Quand il y a une formation pour développer ses compétences sociales et émotionnelles, vous voyez, tout se passe mieux, même chez les adultes. Le stress, au contraire, va abîmer le cerveau de l'enfant. Je peux vous assurer que moi, j'ai été horrifiée de sortir ces études-là. Que la maltraitance émotionnelle, c'est tout ce qui va rabaisser l'enfant, le critiquer, le punir, l'humilier, et qui va diminuer le volume du cortex orbitofrontal. Que la maltraitance physique, ça diminue l'hippocampe. Que le stress peut endommager des structures cérébrales participant à la vision. Là, je passe très vite. Que les paroles blessantes et humiliantes, très intéressant ça pour les enseignants, vont altérer quand on dit à un enfant « t'es nul, t'es un bon à rien ». Eh bien, l'enfant, ça altère des circuits neuronaux et des zones participant à la compréhension du langage. Donc là, je vous ai mis un petit... Trois livres. « L'école en pleine conscience » de Patricia Jennings. Je vous incite très fortement à acheter ce livre qui est extraordinaire. C'est une formatrice, elle était en France là, la semaine dernière. La méditation en pleine conscience est très importante aussi. Et je vous remercie de votre attention. Et comme ça, je suis là pour... Alors, je suis désolée pour vous d'avoir passé très très vite les dernières diapos, mais vous l'aurez avec les vidéos, je pense.
Oui. On va générer de la frustration, vous savez. Première question ici. C'est tout à fait aléatoire et subjectif. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez parlé d'humiliation physique très courante à la première année de vie.
Oui.
Vous pouvez donner un exemple ?
Alors, un exemple ? Alors, moi, je suis pédiatre. Quand j'ai fait mes premiers stages en pédiatrie, mais je n'en revenais pas. Il y a des milliers d'enfants qu'on jette contre les murs dès la première année de vie, dont le cerveau est bousillé, parce que les parents disjonctent vis-à-vis des pleurs des enfants. C'est énorme. Actuellement, on parle beaucoup, beaucoup de ce qui se passe vis-à-vis des femmes, et je suis très contente, mais on ne parle pas de la maltraitance que subissent les enfants. Par contre, toutes les maltraitances vont dominer des troubles du comportement, on sait. C'est-à-dire, soit de l'agressivité, de l'anxiété, de la dépression, de la délinquance, de l'addiction à l'alcool, aux drogues. Et parmi, vous voyez, tout ce qu'on dit, des comportements violents dans les couples, parce qu'il y a aussi bien les hommes qui peuvent être violents, mais les femmes aussi, c'est très souvent dû à l'enfance. C'est-à-dire que quand on a eu une enfance violente, très souvent, on va reproduire ça dans le couple. Et donc, les problèmes qui sont dénoncés vis-à-vis des femmes actuellement, elles sont dues à l'enfance. Et je me dis, mais pourquoi on ne parle pas de ça ? Un homme élevé avec non-violence, il ne devient pas violent. Une femme élevée avec non-violence, parce qu'il y a des femmes très violentes aussi dans les couples, elles ne seront pas violentes dans les couples. Donc c'est de l'enfance dont il faut s'occuper d'abord. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas.
Bonjour.
Bonjour.
Non, moi j'ai juste un message pour tous les parents, les enseignants. On s'est tous retrouvés confrontés à des critiques. C'est trop fort ? Court ? Ouais. Tu ne poses pas assez de limites, tu es trop laxiste. Et grâce maintenant à ces études de neurosciences, je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas changer de cap et que voilà, comme dans toutes les révolutions, on a besoin de militants et je voulais dire bravo à tout le monde.
Alors, à ce propos-là, je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas dit. Quand on est parent ou enseignant, il ne faut pas se mettre de pression. Pourquoi ? On fait des erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait des erreurs jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de ne pas les reconnaître. Donc, quand on a un mot de trop ou qu'on fait quelque chose qui n'est pas adéquat, on le dit à l'enfant. Excuse-moi, là j'ai dit une parole qui m'a dépassée. Excuse-moi. Et ça, c'est très pédagogique pour l'enfant et très éducatif. Donc, ne pas se mettre des pressions. On fait des erreurs tout le temps, tout le temps. On n'a jamais fini de progresser dans nos relations. Donc, surtout pas de pression.
Bonjour. Merci pour votre présentation.
Bonjour.
Je suis assistante maternelle, donc j'ai vraiment des tout-petits. Et je pratique beaucoup l'empathie. En revanche, quand vous parlez d'empathie, si par exemple chez moi, il y a de l'empathie, ça va développer le cortex orbitofrontal. Qu'est-ce qu'il en est si chez les parents, il n'y a pas du tout d'empathie?
Alors je vais vous faire une réponse très très bête. C'est déjà énorme pour l'enfant, c'est mieux que rien. C'est déjà énorme. Et chacun met des petites gouttes là où il est. Par contre, vous pouvez sensibiliser les parents aussi. C'est comme tout à l'heure, j'étais très contente, on a parlé de l'école qui pouvait sensibiliser les parents. Moi, je rêve de ça. Je rêve que dans les écoles, il y ait des personnes qui aiment accompagner les parents, les soutenir, et qui travaillent à ça. Il faut inclure les parents. Ouais. Absolument, et les crèches aussi, bien sûr. Le travail avec les parents, il est indispensable et fondamental. Il est très compliqué, hein, très complexe. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Hein, je me suis occupée principalement de parents maltraitants. Donc, vous voyez, je les aimais beaucoup aussi, ces parents-là. Mais il faut beaucoup, beaucoup d'empathie et de compréhension pour eux et les soutenir. Et dès qu'on les soutient, qu'on les encourage, ils progressent. Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour ce partage qui, je pense, réveille beaucoup de choses en nous. Personnellement, merci aussi de parler de l'empathie, de l'auto-empathie dont nous avons besoin aussi en tant qu'adultes.
Et de compassion pour soi-même.
Et de compassion envers soi-même, parce que nous, on est aussi avec nos valises et avec l'enfance qu'on a tous eue. Donc merci, ça fait du bien. Par rapport à tout ce que vous dites sur l'empathie, moi, ça évoque plein de questions pour moi autour de ce que l'on entend beaucoup en ce moment, c'est-à-dire les enfants hypersensibles. Alors, votre avis de pédiatre, quelle différence entre l'enfant que vous décrivez là, qui a besoin d'empathie, et l'enfant hypersensible, qui visiblement est très très empathique et perçoit les émotions de façon beaucoup plus, soi-disant, grande qu'un enfant?
Ouais. Moi, vous savez, ça me trouble beaucoup toutes ces étiquettes qu'on met sur les enfants. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Tout le monde a besoin d'empathie. Voyez. Et je ne vois pas qu'est-ce que c'est qu'être hypersensible. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai vu des milliers d'enfants. Bon, on a tous les mêmes besoins fondamentaux. On est tous différents dans nos expressions. Il y a des enfants qui vont exprimer plus leurs émotions, d'autres qui vont avoir du mal à les exprimer. Cela, il va falloir les aider à les exprimer. Donc un enfant qui exprime beaucoup ses émotions, c'est formidable. Par contre, un enfant qui est envahi par ses émotions désagréables, ça, c'est un problème. Voyez ? Alors, est-ce que c'est ça dont on parle avec ces enfants hypersensibles ? Je ne sais pas.
Bonjour, moi je suis médecin généraliste. Je m'intéresse beaucoup à la résilience, en fait, à ceux qui ont vécu tout ça et qui arrivent à s'en sortir. Je pense qu'ici, dans cette salle, on a quand même, on est à peu près, je ne sais pas, tous de la même génération, mais on a quand même beaucoup vécu dans ces années où on ne connaissait pas tout ça. Il y en a quand même énormément qui arrivent à s'en sortir. Vous avez parlé de l'environnement, mais qu'en est-il de la génétique et de cette capacité, justement, à se reconstruire après tout ça, même si on a eu ce cerveau qui, finalement, a été un peu maltraité dans la précocité, quoi.
Alors, nous, médecins, on sait que le développement d'un être humain est très complexe. Il dépend de nos gènes et de l'environnement, et l'environnement au sens large. Bien entendu qu'on sait que qu'est-ce qui permet de résilier, c'est d'avoir autour de soi des personnes empathiques, chaleureuses et soutenantes. Ça, toutes les études le montrent. Les gènes aussi font qu'on va plus ou moins résilier. Ouais. Donc, il y a les deux, toujours. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la part, vous savez. Ceux qui donnent des pourcentages, c'est pas scientifique. Hein. Mais ce qu'on sait, la bonne nouvelle, c'est que à chaque fois qu'on est empathique, chaleureux et soutenant, c'est des petites graines qu'on met. Oui. Alors, à l'heure actuelle, on sait que l'environnement... Alors, je ne parle pas des malformations génétiques. Hein. l'environnement est plus important que les gènes. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que plus il y aura de personnes comme vous ici, plus notre société en France va se modifier dans le bon sens. Et je vous dis, je suis confiante, parce que je rencontre des gens merveilleux partout, partout en France. Et vous, vous, je vous demande de diffuser ça autour de vous.
Hein ? Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, je suis enseignante et coach parental, justement, pour pouvoir apporter un petit peu ma petite graine auprès des parents. Et j'organise des conférences et des ateliers dans mon école, justement. Ma question, c'est... voilà, moi, j'ai un jeune qui m'a contactée il n'y a pas longtemps, qui a 22 ans, pour que je l'accompagne, parce qu'il a souffert de toute cette maltraitance de la part des enseignants dans son parcours scolaire, mais aussi de ses parents, avec des phrases comme « tu es bon à rien », etc. En l'occurrence, il est multidis et il a un trouble d'autisme. Voilà. Et il n'a pas été accompagné comme il se doit. Et aujourd'hui, voilà, il est à tel point qu'il a besoin de se faire accompagner. Mais ma question, c'est... voilà, étant donné que le cerveau est... Enfin, vous dites, jusqu'à 25 ans, voilà, il se construit, etc. Est-ce que, justement, un jeune comme ça, de 25 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Alors, est-ce qu'on peut tout changer ?
Alors, je vous ai dit que le cerveau était malléable jusqu'à la fin de notre vie. Il est beaucoup plus malléable pendant la grossesse. C'est pour ça que c'est très important de prendre bien en compte les femmes enceintes et qu'elles aient un environnement non stressant les deux premières années de vie de l'enfant. C'est là où notre cerveau est le plus malléable. Mais il reste malléable jusqu'à la fin de notre vie. Alors, après... Je vous ai parlé tout à l'heure des choses terrifiantes qu'on voit dans nos services de pédiatrie. Là, le cerveau est complètement détruit. Mais quand on n'est pas détruit, il y a toujours de l'espoir. Donc à chaque fois qu'il reçoit de l'empathie, il y a quelque chose qui se passe en lui. Par contre, il faut beaucoup, beaucoup de patience. On ne sait jamais quand on s'occupe... Je vous ai dit, moi, je me suis occupée de parents maltraitants. Je ne savais jamais combien de temps les parents allaient se modifier. Il faut faire confiance. Et ça nous n'appartient plus après. C'est très mystérieux, hein, le développement d'un être humain. Mais par contre, vous êtes consciente qu'à chaque fois que vous lui donnez de l'empathie, ça lui fait du bien. Il ne faut pas vouloir attendre un résultat. Hein. Si on attend un résultat, on est dans la pression. Du tout, du tout. Il faut faire confiance. C'est la confiance qui fait progresser les êtres humains.
Oui, bonjour. C'est par Bonjour. Ici. Voilà. Natacha, je viens de Suisse et je suis très contente d'être ici. Je travaille en crèche, on est venu à plusieurs là. Merci beaucoup. Je voulais vous dire, justement, nous, dans le travail en crèche, je travaille avec les 1-2 ans et on a eu cette présentation il y a 6 mois dans notre travail et ça a changé la manière dont j'ai travaillé avec les enfants, de permettre justement, quand je vois cet enfant par terre, qui se roule par terre et moi j'ai juste envie de m'éloigner. Eh ben déjà, moi, d'apprendre à respirer et travailler sur ma cortisol à moi, n'est-ce pas ? Parce que moi, je suis en même état que cet enfant, en fait. Et ça, c'est vraiment la clé, j'ai envie de transmettre, parce que je l'ai appris maintenant et je l'ai travaillé. C'est quand nous-mêmes, on est en stress, n'oublions pas que nous sommes dans la cortisol, et nous-mêmes, de respirer. Et je sais que de réussir à sortir de la cortisol, c'est soit la respiration, donc tous les exercices qu'on a fait ces 2 jours, merci beaucoup, sont des outils. Et puis, une autre manière, c'est aussi de penser rationnel, donc mathématiques, réfléchir à un numéro de téléphone, et tout ça, ça apaise. C'est des petits outils, mais qui aident tellement. Et vous voyez, ma voix est déjà en train de descendre. Voilà, donc j'avais envie de transmettre ça, parce que ça aide. Et une fois qu'on est calme, on peut regarder l'autre et l'aider, et lui donner ce qu'il a besoin, ce qui est de l'affection, et des mots qui comprennent, qui mettent des mots ce qu'il ressent. Voilà, ça, c'est un outil, je vous jure, c'est un trésor, et je vous remercie de confirmer scientifiquement. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup pour ce partage. Je veux juste rebondir à ce que vous avez dit. Je suis d'accord tout à fait avec les outils que vous proposez. Juste un ajout. L'essentiel pour moi, c'est le travail en équipe d'empathie. C'est-à-dire, le matin, il faudrait que entre vous, vous vous donniez de l'empathie, de l'affection. Parce que travailler en crèche, c'est très compliqué, très difficile. La période la plus compliquée pour les adultes, c'est la petite enfance jusqu'à 5 ans. L'adolescence était redoutée par les adultes. Mais je peux vous assurer que la période la plus difficile, c'est la petite enfance. Donc il faut que les adultes qui s'occupent de la petite enfance se soutiennent entre eux, se donnent beaucoup d'empathie.
Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, je pense qu'on peut applaudir.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.